Tu ne fais pas partie du gratin? Tu ne connais pas la cousine de la grand-mère de Britney? Pas de panique, Trent Mix Radio te déroule le tapis rouge. C'est la rencontre VIP, avec Trent.
Salut tout le monde, c'est Trent, vous vous souvenez de ça? Et ouais, l'an 2000 était marqué par Daddy DJ, ce carton mondial vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers la planète grâce à la rencontre de deux Français, Jean-Christophe Belval et David Leroy. Et devinez quoi? Daddy DJ revient en force avec un projet collaboratif surprenant et ils ont choisi Trent Mix Radio pour vous en parler, bande de vénards. Allez, enjoy! Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour Rémi.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Trent Mix Radio. Alors, moi je suis super heureux de t'avoir avec nous parce que tu as enchanté ma jeunesse et celle d'une grande partie de nos auditeurs. J'ai 43 ans, tu as accompagné mes 20 ans avec un titre qui a fait le tour du monde. Ça s'appelle évidemment Daddy DJ, je sais que tout le monde a le refrain en tête. C'est plus d'un million d'exemplaires vendus, me semble-t-il. Alors, bien plus que ça,
oui.
En tout cas en France, c'est ça, hein,
oui,
en France.
C'est ça.
On va en parler hein, évidemment, mais avant ce moment de nostalgie, il y a une actu qui est très importante pour Daddy DJ, puisque vous signez votre grand retour, ça fait quelques mois déjà. C'est un projet collaboratif qui s'appelle Rendez-vous. Il y a eu un premier titre avec Lunis qui s'appelle Issues, et il y a un single qui est sorti il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Sail on By, en feat avec Kayak, qui est un duo suédois. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Comment c'est né et comment est née cette idée de projet collaboratif?
En fait, je dirais que c'est un peu comme tout ce qui s'est toujours passé pour Daddy DJ, c'est en fait les étoiles qui se sont alignées au bon moment. Et en fait, ce qui... je sais pas si tu as un peu suivi, mais il y a eu beaucoup de reprises. En fait, tous les 2-3 ans, on a eu des reprises, notamment une Bass Hunter, etc. Donc ça, c'était des initiatives d'artistes qui nous ont sollicités. Donc il y a eu Gabri Ponté aussi, donc là récemment. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, ça peut être bien de repenser peut-être à faire revivre le Daddy Boy 20 ans plus tard avec des projets. Et puis en fait, on était sur Insta, on a vu le duo Lulis hein, qui avait fait Daddy DJ, on a trouvé ça très sympa, on a liké, on leur a dit voilà, c'est super cool. Et du coup, il y a eu un échange, et puis ben, en fait, dans l'échange, j'ai venu se dire bah tiens, on a vu qu'ils appréciaient notre son et qu'on appréciait le leur, et on s'est dit ben on va collaborer. Donc on leur a proposé un instru sur lequel du coup ils avaient placé une voix et on a produit, on a finalisé, et on s'est dit ben en fait on a une bonne idée en fait de départ, c'est-à-dire que Daddy DJ, ça a toujours, en tant que groupe, ça a toujours été la démarche de faire découvrir en fait l'électro d'une manière assez large. Juste écouter les deux albums qu'on a réalisés auparavant, et c'est vrai qu'il y a toujours eu cette volonté de partager notre expérience de l'électro, et puis aussi de partager avec d'autres artistes. Et donc du coup le nom Rendez-vous est venu naturellement, de se dire bah tiens, bah, on va faire un album. Le premier c'était Let Your Body Talk, le deuxième c'était Folder.
Ouais,
donc, on est sur un album, donc Rendez-vous, et donc le rendez-vous de rencontre. Et pareil pour Kayak, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont sollicité en disant voilà, on est fan, donc c'est des Suédois, donc dans les pays nordiques, on est encore plus reconnu qu'en France, et donc du coup, en nous disant voilà, on a un morceau là, est-ce que vous voulez pas collaborer avec nous là-dessus? Et donc on a refait tout l'arrangement, toute la production autour de ce qu'ils avaient réalisé, et puis en fait on a finalisé un projet qui les sortait un peu de leur sentier battu, et puis qui restait nous dans notre veine musicale.
Alors j'ai cru comprendre que cette idée, elle est arrivée pendant le confinement, c'est ça?
Il y a eu un moment donné, effectivement, c'est pareil, quand il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui ont streamé de la musique, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un retour d'amour vis-à-vis de Daddy DJ, je dirais déjà en tant que personnage, et Daddy Boy, et en fait, du coup, c'est vrai que je dirais que ça faisait quelques années qu'on essayait entre guillemets de refermer la page qui était lourde en fait de cette, parce qu'en fait depuis on produit d'autres artistes hein,
oui.
Et donc on produit d'autres artistes que nous, et c'est vrai que voilà, on s'attelait plus sur la démarche de dire bon allez, on passe à autre chose. Et ça faisait, en fait, on n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'à chaque fois, il y a l'actualité qui nous replonge en fait dans ça et on nous redit, oh là là, c'est super et tout. Et refaites quelque chose. Donc voilà, ça fait 20 ans puisque c'était en 2000,
ouais.
La sortie initiale. Et voilà, au bout de 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et je te dis, Gabri Ponte a vraiment pousser le curseur, parce qu'en fait on a un disque d'or en Italie et en Hollande hein, avec la reprise de Gabri Ponte et de Lumix, et donc du coup c'est vraiment voilà, ça a été le phénomène déclencheur et accélérateur de la démarche.
Alors toi qui es un homme de studio, c'est pour ça que je voulais revenir sur le confinement, tu es un homme de studio avant tout, je me suis toujours imaginé que les gens en studio n'ont pas vécu le confinement comme tout le monde, c'est-à-dire que ça n'a pas dû changer grand-chose pour vous. Est-ce que je me plante? Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que vous avez continué à bosser comme ce que vous faisiez avant? Ou comment ça s'est passé pour toi cette période-là?
Moi, j'ai presque honte de dire que j'ai trouvé ça un moment très intéressant. En fait, je suis en maison, j'étais avec ma femme et ma fille et j'ai mon studio chez moi.
Ouais.
Donc, il faisait beau, je faisais de la musique. En fait, déjà à la base, je fais beaucoup de choses en distanciel, je suis beaucoup, beaucoup chez moi. Du coup, oui, sur la période du confinement, on produisait un album avec un groupe qui s'appelle Elle et Lui.
Oui, j'ai vu ça, oui. Oui.
Voilà, et donc c'était un duo à l'origine, et donc du coup, on a travaillé sur cet album, et puis en parallèle, on commençait aussi à travailler sur un projet avec Alexa Iré, qui est une artiste qui avait participé à The Voice, et puis voilà, qui nous a sollicité aussi pour produire son album, donc on commence à travailler avec elle, et puis voilà, donc c'était... Je dirais que bon, ça n'a pas été une mauvaise vie pour nous, enfin pour ma famille en tout cas. Ah oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont dépéri, notamment des étudiants que j'ai à l'école hein, qui est effectivement, parce que je suis prof de son. D'ailleurs, c'est comme ça que la DJ s'est créée. Hein.
Exactement, oui, c'est un étudiant à toi qui s'appelle David Leroy, hein, c'est ça?
Qui était en troisième année, donc je l'avais comme étudiant, donc en 1999. Et effectivement, la démarche, elle a été assez simple. Je venais de Nouvelle-Calédonie. Il avait travaillé plutôt dans le reggae, notamment avec Tonton David.
Ah oui.
De l'époque. Et en fait, donc du coup, il leur faisait des instrus. Et en fait, j'avais vu qu'il avait pas mal de talent déjà. Et je lui ai dit, écoute Voltage, à l'époque c'était Voltage et puis FG, pour t'inspirer un peu de faire des morceaux. Et en fait, il a fait le morceau d'Ali Didier. Et on avait en fait on avait enregistré sa voix en se disant on va enregistrer avec une chanteuse. Et on a fait écouter au producteur du label dans lequel j'étais à l'époque, et qui a dit ne change rien, c'est un hit. Donc on a pris ça en rigolade, et puis en fait, il l'a présenté aux maisons de disques, et puis c'est parti.
Et est-ce que tu penses que ça pourrait se passer comme ça, cette success story maintenant? En fait, pour rien te cacher, j'ai été arrangeur au clavier et au sample pour des groupes de zik rock à Lyon pendant une dizaine d'années, et j'ai l'impression que ce genre de success story n'arrive plus, que chacun maintenant bidouille chez soi et rêve de vendre des millions de disques. Tu penses que c'est encore possible ça maintenant, ce genre d'histoire que vous avez vécu avec David?
Alors en fait, après l'aventure humaine, je dirais que elle peut être plus compliquée, mais en même temps là, j'ai des étudiants sortants là qui viennent de se signer chez Universal en tant qu'artiste.
Oh génial, génial.
Ils sont rentrés à l'école, donc oui, je pense que c'est encore possible. Après, ce qui verrouille la démarche, c'est que l'autoproduction, tu as raison, ça se fait de plus en plus à la maison, il y a de moins en moins de rencontres. Mais ça on est sur une fin de cycle, parce que j'entends de plus en plus de productions qui sont de nouveau enregistrées, notamment pour le rock.
Ouais.
Il y a des productions, elle m'échappe, une chanteuse hyper connue qui faisait du rock basket, on appelait ça à l'époque, et qui est revenue là sur le devant de la scène avec de la production enregistrée avec des vrais musiciens, et même dans la pop, on y revient de plus en plus. Donc, j'ai un bon espoir sur cette démarche qui va revenir. Oui.
C'est une très très bonne nouvelle. Tu as dit quelque chose en interview qui m'a frappé. Tu as dit que vous avez été propulsé en tant qu'artiste par accident. parce que vous êtes des hommes de studio. C'est super intéressant comme vision. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là? Tu parles de l'Halloween Techno Party que je suis allé regarder d'ailleurs sur M6, qui vous a complètement propulsé sur scène. Comment vous le vivez à ce moment-là? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est difficile? Ou est-ce que vous êtes éclaté? Vous n'avez pas réfléchi?
Ah non, c'est un trac fou, parce qu'en fait, on nous dit, voilà, dans une semaine, il y a une super opportunité de visibilité. Ça va être le Zénith, hein, c'est filmé, ça passe sur M6, c'est en direct. Et en fait, on a chacun, d'ailleurs, si vous regardez bien la vidéo, on a des pauvres t-shirts.
Oui.
On se retrouve sur la scène sans avoir été véritablement entraîné, coaché. Donc, je dirais que le pire, c'est pour David, qui se retrouve, lui, à devoir défendre au champ quelque chose qu'il n'avait pas prévu et à devoir bouger sur scène comme jamais. Moi, au clavier, je suis très, très rigide. On a Charlie qui est au platine, mais pareil, enfin, voilà. Et David, qui est, pour le coup, c'est lui qui s'en sort le mieux et c'est lui qui est le plus exposé. Et d'ailleurs, c'était pas anodin la notion de bonnet, parce que ça lui permettait justement, il avait un bonnet sur scène, ça lui permettait psychologiquement de se cacher un peu. Et c'est vrai que ça a été un choc. Moi, j'avais jamais autant transpiré de ma vie, je crois, sur un endroit. Et ouais. Là, sur scène, c'était terrible.
Oui, j'imagine. Oui, sur un zénith en plus. Ouais, c'est carrément pas commun pour une première scène. Et du coup, en fait, j'ai pas l'impression que vous couriez spécialement après le succès. Comment vous l'avez géré, ça, l'après carton de Daddy DJ du premier single?
L'après, c'est-à-dire quand on a tourné un peu la page ou quand on est encore en plein dedans?
Non, quand vous êtes dedans, quand vous vous rendez compte que ça a vraiment, vraiment pris, comment vous l'avez appréhendé, cette espèce d'énorme montée européenne du coup, parce que c'était pas qu'en France, en effet, c'était européen, voire mondial. Comment vous l'avez pris, ça?
Ben en fait, tous les trois, on est des personnes saines, je le dis encore au présent, parce qu'on se côtoie encore. Et effectivement, on se dit, à un moment donné, on s'est dit, voilà, si on en voit un qui pète un boulon, il y en a deux qui sont là pour le remettre dans le droit chemin. Donc ça a été comme ça pendant toute la tournée, parce qu'on a à peu près eu 4 années de tournée et de production de l'album en même temps, hein, parce qu'en fait on a dû produire l'album en même temps qu'on faisait la tournée. Et en fait on périodiquement s'est recadré les uns les autres et ça a permis vraiment de rester complètement serein. Après, l'avantage aussi c'est que c'était un dessin animé, donc du coup c'était des dessins animés, à part le troisième, nos clips, donc du coup on ne nous reconnaissait pas forcément. Alors, on nous reconnaissait, c'était quand on était tous les trois et qu'on était dans les parkings je me souviens souvent, enfin quand on se baladait tous les trois, on nous reconnaissait plus facilement parce qu'on était malgré tout dans les revues Fan 2 et tout ça de l'époque. Mais voilà, c'était jouissif, mais par contre on était conscient qu'il fallait que ça pouvait tomber. D'ailleurs, on avait vu les Tout Fruits, on avait fait un plateau avec eux.
Ouais.
Quand je les avais vus, j'avais dit aux collègues, j'avais dit, je vais jamais retomber dans ce truc-là, parce qu'on sentait qu'ils étaient dans une fin de fin de cycle, et qu'ils poussaient un peu trop, et je pense qu'ils étaient pas forcément, ça les rendait pas forcément heureux. Et j'avais dit, nous, on arrêtera avant ça. C'est pour ça qu'on a arrêté assez tôt, en fait.
Oui, vous avez été complètement lucide pendant pendant toute cette période. Jean-Christophe, j'ai une dernière question. Je voulais revenir sur l'album Rendez-vous. Et ça rejoint ce que je te demandais au niveau de la scène. Niveau scénique, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour défendre cet opus ou ça reste de l'expérience uniquement studio?
Nous, on a toujours en tête, même si on aime beaucoup bosser en studio, on aime aussi beaucoup pouvoir jouer en fait en live. D'ailleurs, on a eu une grosse frustration parce que sur le premier album qu'on a défendu en live, c'était toujours enregistré et c'était très embêtant.
Ouais.
On jouait sur un playback et ça vraiment, j'avais toujours l'impression de tricher un peu avec le public alors que c'était tout ce que je jouais en fait, je les jouais en vrai, hein, c'est-à-dire que c'était présent sur les pistes de l'ordi que j'avais enregistré toutes ces parties-là. Mais c'est vrai que du coup, l'idée c'est toujours de se dire voilà, on va faire du live pour de vrai. Donc ça reste dans un coin de notre tête. Et d'ailleurs, ça va être un live qui va être un peu revival. On va faire en fait des plateaux en Norvège. On vient de valider là, un contrat avec eux, donc avec un promoteur. Donc pendant tout le juillet-août donc de 2024, et on va faire en fait des concerts là-bas avec tous les Alice DJ, Vanga Boys, en fait toutes les références des années 2000.
Ah, génial.
Là, c'est plus un revival. Donc on va sûrement jouer au moins une de nos tracks nouvelles.
Ouais.
Mais par contre, ce sera essentiellement parce qu'on va demander forcément le David DJ et les choses de l'époque.
Et les anciens. Jean-Christophe, merci infiniment d'être passé faire un coucou sur Threat Mix Radio. Vous êtes évidemment les bienvenus hein, quand vous le souhaitez. Si tu veux défendre d'autres choses, tu n'hésites pas à revenir à l'antenne. C'est avec grand grand plaisir, vous êtes à la maison. Je rappelle la sortie de rendez-vous qui signe votre grand retour, qu'on diffusera hein, bien évidemment. Et puis bah merci en tout cas, je suis très honoré de t'avoir, parce que je peux te dire de vive voix que tu nous as fait vraiment vraiment vibrer quand on était jeune, et ça restera dans la tête toute la vie, je pense, le travail que vous avez fait. Vraiment, c'est très sincère en tout cas.
Mais pareil, on l'a pas fait exprès.
Mais ouais, mais tu vois comme quoi, hein, le hasard, ça apporte de très très belles choses. Merci infiniment.
Merci à toi.
Merci pour tout.